France Culture.
Talmudique. Fabrice Adjadj, bonjour.
Bonjour Marc Alain.
C'est un plaisir de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre conversation autour du thème des animaux. On l'appelait Aaron de Tunis. Il jouait avec les lettres, comme d'autres avec les cartes. Dans les souks ombragés, sous l'arche blanche des synagogues, ses mots dansaient, glissaient entre les lèvres, disparaissaient dans un silence, puis réapparaissaient ailleurs, illuminés d'un double sens. Il disait « Les lettres sont des oiseaux, parfois colombes, parfois corbeaux, et leur envol tisse des mondes, invisibles pour l'œil, qui ne voit que la cage des pages. » Aaron connaissait la joie des anagrammes, le secret du tétragramme, l'art des inversions et des renversements. Il transformait la lumière en montagne, l'écrit en récit, et trouvait dans chaque silence une mer à traverser. Il déployait des énigmes comme des tapis, chacun y posait le pied, croyant avancer, mais plus on le suivait, plus on s'apercevait que l'on faisait marche arrière. Sous sa barbe blanche et ses doigts effilés, les mots se liaient à l'étoffe des jours. Bereshit était un commencement sans fin, la Torah devenait l'écho d'une flamme retournant vers son origine, et les racines les plus simples redevenaient incandescentes. On raconte même que le silence d'Aaron était plein de paroles, qu'au-delà des jeux d'esprit et des lettres qu'il faisait surgir, il savait que derrière chaque mot se tenait un vide, prêt à accueillir la voix du lecteur, ou celle d'un ange, ou celle du vent. Aaron disparaissait souvent comme il était venu, laissant derrière lui des manuscrits griffonnés, des lettres ouvertes où chacun trouvait son nom. Ceux qui le cherchaient se perdaient parfois, mais ceux qui se laissaient perdre découvraient l'étoile qu'ils poursuivaient. Aaron de Tunis, le prestidigitateur des mots, était-il un conteur, un prophète, un poète, ou simplement une lettre tombée d'un livre en train de s'écrire ? Fabrice Adjadj, vous avez reconnu un des personnages de votre livre qui s'appelle Noé, commencé à la fin du monde. Ce personnage, Aaron de Tunis, a inspiré les quelques lignes que l'on vient d'entendre, accompagnées par la quatrième gnossienne d'Eric Satie, jouée ici par Alessio Nani. Ce conte est une méditation poétique qui reprend en l'amplifiant l'épisode de Noé, de son arche et du sauvetage du monde et de son recommencement après le déluge. Cela tombe bien pour un commencement de l'année. Ce texte a aussi fait l'objet d'une adaptation théâtrale mise en scène par Sifrène Michel. Pourquoi avoir choisi de faire une version conte, un conte pour enfants et adultes, de vos réflexions philosophiques, littéraires et théologiques sur les animaux? Une question qui permettra, je pense, de répondre encore plus précisément à une autre question sur l'identité de Rabbi Aaron de Tunis, Fabrice Adjadj.
D'abord, je suis très touché du texte que vous avez écrit. Il y a une parole de Nietzsche que j'aime beaucoup. Il dit « Le grand malentendu, attendre un écho et ne recevoir que des éloges ». Et là, je suis très touché parce que vous faites écho, en fait, à ce personnage. Vous lui avez trouvé une histoire. En tout cas, vous-même, vous avez amplifié les quelques lignes qu'il y a sur Aaron de Tunis. En réalité, dans ce texte donc de Noé, je reprends beaucoup de textes midrashiques et de noms de rabbins du Talmud. Mais aussi, il y en a d'autres qui sont plus ou moins inventés. Alors, il se trouve que Rav Aaron de Tunis, c'est mon père. Voilà, qui s'appelle Aaron, enfin Bernard Adjadj, mais son nom juif c'est Aaron. Et d'une certaine façon, à un moment donné, un peu en lien avec des choses qu'il m'avait dites, mais aussi avec des choses que je ne savais pas à qui les attribuer. Alors j'ai fait apparaître ce Rav Aaron, donc juif tunisien, avec aussi le 5 sur toi mon fils, avec des choses qui sont typiques du folklore juif tunisien. Alors pourquoi réappareiller l'arche et même y embarquer mon père d'une certaine façon? D'abord parce que la température monte, le niveau des eaux monte et que on est dans une situation où même le progressisme moderne a disparu. On est à l'époque de la collapsologie, donc la postmodernité est profondément marquée par l'idée d'une non seulement d'un déclin, d'un déclassement politique, économique de l'Europe, mais aussi du sentiment de l'impossibilité de l'extinction des espèces et de l'espèce humaine, comme peut-être jamais autant auparavant. Et donc, le sujet de Noé se prêtait spécialement à cela. Alors, c'est bien sûr, c'est donc ce contexte, on pourrait dire, à la fois écologique et eschatologique, qu'entremêle en fait l'histoire de Noé, mais aussi... On pourrait toujours dire, il y a des circonstances, mais aussi se faire à nouveau l'écho d'une parole éternelle. Qu'est-ce que nous dit cette histoire? Donc commencer à la fin du monde, c'est ce qu'on a à essayer de faire.
On sait maintenant qui est Aaron de Tunis. J'ai pensé, en vous écoutant, à Jabès et à son livre des questions, à son œuvre en général, où il y a un ensemble de rabbins imaginaires qui se côtoient et discutent, dans lequel, et dans votre livre, comme chez Jabès, tout le monde n'est pas d'accord, et ici tout le monde n'est pas d'accord avec le rabbi de Tunis. En tout cas, dans ce conte, vous lui trouvez un contradicteur en la personne de Rabbi Gershom de Brooklyn, comme pour souligner quelque chose d'essentiel qui est le cœur de la pensée talmudique, à savoir qu'il ne peut y avoir de pensée unique et que la contradiction est toujours non seulement bienvenue, mais requise pour ne pas tomber dans le piège d'une vérité unique, pour que nous ne mourions pas de la vérité, comme dit Nietzsche, Fabrice Hadjadj.
Je mets toujours en scène des rabbins qui sont contredits par d'autres rabbins et confirmés encore par d'autres rabbins, mais avec d'autres arguments. Et il y a même un passage où il y en a un qui ne donne pas la contradiction et qui lui dit « Mais si tu ne me donnes pas la contradiction, c'est que tu me méprises, en fait, parce que tu crois que j'ai besoin de ta confirmation. » Mais non, en fait, je sais très bien ce que je dis. Donc oui, il y a cette culture, mais on aurait tort de la resituer, en fait, dans une pensée grecque. Parce que on pourrait dire « Ah bah oui, donc voilà, les Juifs sont relativistes, sceptiques, ou alors il s'agirait d'une contradiction logique. » Alors que c'est pas du tout ça, c'est ni une contradiction logique, ni une dialectique hegelienne, ni rien. C'est vraiment ce qui se joue, on pourrait dire, dans la pensée talmudique, on est dans l'émission qui doit en parler quand même, c'est tout autre chose. C'est le mouvement des engendrements, c'est le mouvement de la vie. C'est-à-dire que la logique n'est pas celle de la déduction, mais celle de la filiation. Or, un fils, c'est pas celui qui répète ce qu'a dit son père, c'est celui qui a reçu de son père, mais qui devient père à son tour. Et donc, c'est ça qui se joue. Et alors, il y a un lien avec l'arche, avec la diversité des animaux. C'est que la parole de Dieu qui crée le monde crée cette diversité. C'est comme si chaque interprétation devait apparaître comme un animal original, comme une espèce un drôle d'oiseau à chaque fois, mais qui s'insère à l'intérieur de cette écologie, on pourrait dire, générale de l'interprétation. Donc, on n'est pas du tout dans un positionnement à l'intérieur de la philosophie grecque qui serait relativiste. On est dans un autre mode de pensée qui fait comme irruption, mais qui a en même temps son lieu dans les racines mêmes de la création et de, voilà, les interprétations inventent des créatures. Donc, elles sont en lien toujours avec le créateur, mais ce sont des nouvelles créatures qui vont dialoguer entre elles. Il y a parfois des prédateurs et des proies, il y a parfois des coopérations singulières, mais il y a toujours cette manière de renvoyer l'un à l'autre, cette interdépendance des vivants.
Pour vous et les commentateurs que vous rapportez, la faute de la génération du déluge est celle de la grande confusion et du grand mélange. Et il y a d'ailleurs au début du conte une très belle illustration de Clotilde L, intitulée « L'auberge du grand mélange ». Parlez-nous de cette faute primordiale, si l'on peut dire, Fabrice Hadjadj.
Les versets qui introduisent le déluge sont des versets qui parlent des néphilim, les déchus, ceux qui sont tombés et qui se sont unis aux filles des hommes sur la terre. Et puis après, toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Donc ces paroles veulent dire d'une part que la hiérarchie verticale a été troublée. Tout d'un coup, des anges, des êtres, voilà, sont tombés et sont allés s'unir avec les filles des hommes. Et de l'autre côté, chaque chair sort de sa voie. Ça signifie qu'il va y avoir tout d'un coup une perte, une disparition des frontières entre les vivants. Parce qu'il faut savoir que le monde biblique, à la différence de la plupart de toutes les religions païennes, où il y a des métamorphoses toujours, un homme devient un animal se change en un autre, etc. quand Dieu crée toutes choses selon leur espèce, il n'y a pas de métamorphose dans la Bible. C'est vraiment, les choses sont créées selon leur espèce. Il y a cette diversité voulue par Dieu qui crée en séparant. Et là, tout d'un coup, cette séparation qui permet la vraie communion, et donc qui est le contraire de l'osmose, de la confusion, eh bien, cette séparation est refusée. Et alors, c'est la tradition générale qu'on trouve chez Rachi de Troyes, chez les rabbins du Talmud, que les animaux sauvages copulaient avec les animaux domestiques et que les hommes et les femmes copulaient avec les bêtes. Et donc, on est dans cette sorte de grande auberge, voilà, d'auberge du grand mélange, c'est-à-dire d'une sorte d'orgie généralisée. Et pourquoi ? Parce qu'il y a le désespoir. Et c'est ça l'écho avec notre époque. On dit, voilà, rien ne va plus, faisons nos jeux, chacun fait comme il veut, parce que on s'est peut-être émerveillé de la nature, comme on dit, et voilà que cette nature nous apparaît aussi comme une marâtre, puisque tout va disparaître. Alors à quoi bon ? Quoi bon rester humain ? À quoi bon ? Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de voie, il n'y a plus une voie pour chacun sur la terre, il n'y a plus ni de chemin, ni de vocation. Et c'est à l'intérieur de cette confusion qu'apparaît Noé comme la consolation.
C'est intéressant parce que on comprend dès lors beaucoup mieux quel est le sens du déluge. Et je pensais, le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, donne un enseignement que j'aime souvent citer et que j'ai eu le plaisir de retrouver dans ce conte de Noé sous-titré « Commencer à la fin du monde », votre livre. L'enseignement est le suivant. Le mot « arche », celle de Noé et de celle de Moïse, « teva » en hébreu, signifie à la fois la boîte, un bateau et le mot. Un mot à la dimension d'une langue, comme l'indiquent les mesures de l'arche, c'est en entrant dans un mot, dans le langage, dans la littérature, la poésie, la parole d'un dialogue avec autrui, que le monde peut être sauvé et qu'il peut être encore sauvé aujourd'hui à l'heure des grands dangers de sa disparition. Comment avez-vous choisi de développer cet enseignement du Baal Shem Tov dans le conte et comment le tissez-vous avec l'autre des grands enseignements que ce conte raconte, celui qu'on vient de voir, à savoir le grand mélange, Fabrice
Alors, on a pu reprocher au langage d'être séparateur, fixateur. Barthes, à un certain moment donné, mais enfin, il n'a pas dit que ça, Dieu merci, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, va dire la langue est fasciste, voilà, elle nous pousse à tout classer en masculin, féminin, il n'y a pas de neutre en français, et puis on va dire rouge, mais en fait, il y a des tas de nuances de rouge, alors si on dit le rouge, on perd à côté, voilà. Oui, il s'agit bien de reconnaître. La sensation nous livre les êtres dans leur individualité, dans leurs nuances, etc. Et que le langage, avec ses noms communs, a l'air de nous faire perdre toutes ces nuances. Mais en réalité, il ne faut pas prendre ces mots qui sont généraux comme simplement des choses qui épuisent l'intelligibilité des êtres, puisque le poète, lui, va pouvoir déployer sans fin, mais qui les sanctuarise déjà d'une certaine façon. Un chien n'est pas un chat. Je ne dis pas qu'à partir de là, je dis tout ce qu'est le chien. Mais au moins, je le distingue du chat, je le distingue de l'oiseau, je le distingue donc. Donc, le mot sépare tout en unissant à l'intérieur de la langue. Et puis, il y a cette autre pensée qui est, à mon avis, fondamentale, mais qui est la grande pensée du langage chez Emmanuel Lévinas. Il va dire deux choses. Quand je parle, la parole est on insiste sur la communication, mais en même temps, moi comme sujet parlant, je ne suis jamais thématisé par la parole, parce que tout ce que je pourrais dire, ce que je suis, ne dit pas qui je suis. Donc je reste séparé, je manifeste l'abîme qui me sépare avec de l'autre, chacun est dans le mystère de son altérité qui lui échappe même à lui-même. Et en même temps, nous communiquons à partir de cette séparation, de cette altérité radicale. Et de l'autre côté, il dit, et quand je dis le chien, c'est pas mon chien, c'est pas celui que je caresse qui est à moi. Tout d'un coup, je fais accéder une réalité à l'universel et je peux offrir à l'autre le monde en disant le chien. Parce que c'est un chien immatériel. C'est un chien qui va raisonner, qui va chasser à l'intérieur de notre tête, qui va chercher la balle au creux de notre crâne. Et ça, c'est cette pensée du langage d'Emmanuel Lévinas qui, à mon avis, est encore trop méconnue. On s'est trop focalisé sur les questions d'éthique, mais pas assez sur les questions à la fois de la demeure, l'habitation, mais aussi ce que fait la parole, voilà, ça me hante, et c'est ça. Il y a une arche de la parole qui, comme l'arche, produit des kinim, des compartiments avec où il y a des paires, voilà, d'animaux. Donc sépare, voilà, distingue selon chaque espèce, et en même temps offre, recueil.
Et en même temps, c'est peut-être aussi la découverte de la nuance, parce que vous dites que le rouge, c'est du rouge, mais avec les mots, on peut justement amener de la nuance, amener de la différence, et peut-être avec cette différence, on sort de cette grande confusion orgiaque dont vous avez parlé juste avant.
Je suis pas sûr que l'élément premier de la parole, c'est le mot. Le mot, on le découvre qu'à posteriori, analytiquement. Quand je vois mes enfants, donc j'ai 10 enfants, hein, j'ai moi-même une sorte d'arche de ménagerie à la maison en permanence. Et à chaque fois, l'éveil de la parole, on voit que l'enfant phrase. Et il phrase d'une manière un peu mélodique, il reprend des intonations, il reprend... L'unité sémantique n'est pas le mot, c'est déjà le discours. En fait, l'élément de base de langue. Donc, le discours, c'est toujours dire, se dédire, affirmer quelque chose, nuancer, etc. Mais, c'est pas le n'importe quoi. C'est pour ça que je dis, ce monde du déluge, c'est un monde qui s'est déjà liquéfié. Donc, l'eau vient sur un monde de la fluidité des espèces, quoi. Bon. Donc, il ne fait que révéler ce qui était déjà là. Quelque chose où tout est balayé, pris dans une sorte d'immense liquéfaction, déliquescence, on dirait, moralement. Mais, il y a l'image aussi belle du fleuve avec son énergie. Le discours a une dimension fluviale, mais c'est pas n'importe quelle eau, c'est pas la flaque indifférenciée. Le fleuve, il est orienté, il reste dans ses bords, et donc il y a quelque chose où une parole en appelle une autre. Et déjà, on ne commence à parler qu'en répondant. On n'a jamais l'initiative de la parole. C'est parce que nos parents nous ont parlé. Donc, une parole a appelé notre parole, et notre propre parole appelle d'autres paroles sans fin. Vous l'avez très bien dit à propos du Rav Aaron de Tunis, selon vous, qui laissait dans chaque mot, dans chaque parole, un vide pour que d'autres puissent y mettre leur propre souffle, d'une certaine façon. Donc c'est ça qui est toujours en jeu.
C'est un conte qui s'appelle Noé, qui est sous-titré « Commencer à la fin du monde ». J'aimerais que vous nous lisiez un passage. Je vous laisse le lire.
Rabbi Jacob d'Écully déclare « Noé, dans l'arche, a résumé toute la création. » Certains nids étaient par conséquent de grands aquariums. Pourquoi pas ? Après tout, cette arche impossible, capable de contenir toutes les espèces aériennes et terrestres, pourquoi n'aurait-elle pas aussi contenu les aquatiques ? Et pourtant, à la question posée par Madame Nakash de Sarcelles, « Y avait-il des poissons dans l'arche ?» le Rav Gabriel Dayan répond, en renvoyant à la lettre du bon vieux livre, puis en faisant référence au traité Sanhedrin 108a, édition Schottenstein, note 52, « Non, les poissons furent épargnés et ne montèrent pas dans l'arche. » Et il ajoute, « Les poissons n'ont pas de paupières, ils ne peuvent pas pêcher. » Pêcher avec accent aigu, quoi qu'on puisse aussi mettre le circonflexe. Si bien qu'il nous rappelle à la vigilance, comme dit le psaume, « L'œil de Dieu est toujours ouvert pour ceux qui le craignent. » Et c'est pourquoi, précise Aaron de Tunis, « pour protéger une personne contre le mauvais œil, celui qui se plisse de convoitise ou se ferme de mépris, les Juifs séfarades disent en ouvrant leurs mains comme une main de Fatma, 5 poissons sur toi. »
Merci Fabrice Hadjadj pour cette belle lecture. On sent, en vous écoutant, la dimension à la fois très écrite et très orale, comme si d'emblée vous écriviez pour le théâtre. Vous avez déjà écrit une dizaine de pièces, peut-être plus, et l'institut que vous dirigez, Philanthropos, inclut dans son cursus une formation théâtrale. On connaît votre souci pour la pédagogie, et on le comprend en vous écoutant. En quoi le théâtre est particulièrement important pour la formation des élèves en général, Fabrice Hadjadj?
Je pense à cette parole du Deutéronome, hein, la loi n'est pas au ciel ou sous la terre ou dans les abîmes que tu dois dire qui ira me la chercher, elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique, c'est-à-dire pour qu'elle devienne ton propre corps. Et le théâtre, c'est ça. Alors, le théâtre, c'est ce qui est merveilleux, c'est que il y a une écriture qui est là, tout est écrit, mais rien n'est joué. Tout est à jouer encore. Et c'est quoi ce jeu dans le théâtre? Eh bien, c'est à partir d'une parole qui est là et on pourrait dire « Ah, mais tout est fixé ». Non, parce qu'il va y avoir l'incarnation de cette parole, l'interprétation de cette parole et à l'intérieur même de l'interprétation, l'improvisation. Voilà, ces 3 dimensions de l'acte du comédien. Alors pour moi, ça a toujours été un modèle de notre rapport à la loi de Dieu. C'est-à-dire, voilà, justement, on pourrait dire, ça nous enferme et tout. Mais non, au contraire, c'est l'espace du jeu.
Comment vos élèves réagissent par rapport à cette volonté pédagogique du théâtre ?
Ils sont toujours ravis. D'abord parce qu'ils découvrent que la parole est un organisme. Que les mots, comme vous le disiez, sont comme des oiseaux pour le rabbin Aaron de Tunis. Et alors c'est ça, les faire entrer dans la chair de la parole, quoi. Qu'est-ce que ça fait dans ma bouche de dire ça ? Et en plus, c'est pas simplement dans ma bouche, parce que ce qui est dans ma bouche est tout de suite, la cage de la page s'ouvre, et c'est tout de suite pour que cet oiseau s'envole vers l'oreille de l'autre, vers comme Noé lâche la colombe d'auprès de lui. Qu'est-ce qu'elle va ramener ? En fait, à un moment donné, elle ramène. On a le retour d'autrui dans le dialogue, mais il y a un moment où elle ne revient plus, et c'est ça le plus précieux. Ça y est, elle mène sa vie. On a peut-être semé quelque chose, on ne sait pas. On ne verra pas la récolte, mais quelque chose est parti.
Et c'est plus fort que la lecture, parce que la lecture, vous avez aussi les mots qui sont dans la bouche quand vous lisez à haute voix. Le fait que le corps s'incarne comme acteur change beaucoup.
Oui, alors, la pratique de la lecture mentale est une pratique très récente. Il n'y a pas de prière mentale pour le juif, il prie toujours à mi-voix. Et la lecture se faisait soit à mi-voix, soit à voix haute pendant très longtemps. Aujourd'hui, une maîtresse d'école pense qu'un enfant a acquis la lecture à partir du moment où il ne remue plus les lèvres. Mais autrefois, c'était au contraire un problème. Donc, quand on sait que c'était pour être porté par une voix, on écrivait avec ce sens oratoire. Et tous les textes du Moyen-Âge portent encore cette marque oratoire.
Mais on a l'impression que vous préférez quand même le théâtre.
J'aime l'oralité, peut-être parce que et Proust n'en avait pas tant, voire pas du tout, mais peut-être parce que j'ai des enfants, parce que tout ce que j'écris ne leur est pas accessible, et donc il y a un moment où il faut que ça passe dans le conte. Et là, c'est merveilleux d'avoir des enfants donc qui sont capables. Mes enfants ont grandi en voyant mes pièces de théâtre aussi, mises en scène par leur mère. Et puis, j'ai maintenant Noé est joué par ma fille aussi, Esther. Donc voilà, il y a aussi une transmission, ça fait partie... Comment la lecture qui nous parle des engendrements dans la Torah, c'est de manière si importante, eh bien voilà, ça se rencontre effectivement dans cette oralité et transmission physique, filiale, et ça c'est en lien avec le théâtre.
Dans vos pièces et dans vos livres en général, on découvre une présence insistante de l'humour. On l'a entendu dans le texte que vous venez de lire. Vous avez évoqué Madame Nakache de Sarcelles. Le passage que vous venez de lire donc en témoigne singulièrement. Comment définiriez-vous cet humour et l'usage des jeux de mots qui, on le voit en vous lisant, vous sont très chers, Fabrice Hadjadj ?
Je ne sais pas, je ne cherche pas à faire de l'humour. Quand on va à un spectacle ou pour voir un comique... Quand on dit on va essayer de faire rire les gens, bon, c'est le bide en fait. Je suis vraiment tourné vers la chose qui est à penser. Et il se trouve que les choses sont drôles. C'est pas moi qui suis drôle. Il y a une chose que j'emploie en fait, enfin qui me définit un peu ce que je fais, c'est ce que j'appelle l'ironie au premier degré. De dire Dieu est en train de nous créer à cet instant, il est donc là. Bon, et en même temps on le voit pas du tout. C'est de l'ironie pure. Le fond de l'être contient une ironie. Et donc, il suffit qu'on raconte les histoires, même, et la Bible ne cesse de jouer avec ça, dans le décalage de sens. Ça commence d'emblée avec des énigmes, voire même deux récits de la création qui sont complètement opposés. Ou alors, cette histoire de Noé qui sauve les animaux et dès qu'il débarque, il change le bois qui les a sauvés de l'eau en bois qui va les consumer dans le feu, puisqu'il va sacrifier, il va donner en holocauste un exemplaire de chaque animal pur. Donc, cette ironie, elle est permanente. Ce jeu est permanent. Et c'est ça qui se joue ici. Il y a toujours une ironie, il y a toujours du jeu, il y a toujours du décalage. Et donc, j'essaye pas de faire de l'humour, c'est ça, mais de reconnaître cette drôlerie, cet humour qui est toujours là. Un humour qui a quand même aussi une dimension, il faut dire, tragicomique, pas seulement comique.
Pour faire de l'ironie au premier degré, comme vous dites, on va faire un exercice. Rabbi Menachem Mendel Schneerson, à la suite de Rabbi Schneur Zalman de Liadi, qui lui-même citait le folio 71b du premier volume du Zohar, je vous cite, dit « Si tu vois un arc-en-ciel aux couleurs lumineuses, attends la venue du Messie. » Et donc, ce n'est pas « après moi le déluge », mais « après le déluge, l'arc-en-ciel, et après l'arc-en-ciel, le Messie ». Quelle place pour le Messie, quelle figure qui ne soit pas nécessairement religieuse, ni d'une religion particulière, et qui peut réconcilier sans irénisme toutes les familles de l'humanité, Fabrice Hadjadj. On comprend bien que cela ne se fera pas sans les animaux.
Ça ne se fera pas sans les animaux et ça ne se fera pas sans la diversité des couleurs de l'arc-en-ciel, parce que justement c'est ça qui est intéressant. La médiation entre le déluge qui confond tout et qui au nom de l'accueil de l'autre finalement détruit l'autre, parce qu'il ne pense qu'en termes de mélange, de métissage et donc en fait a peur de l'altérité. Et la venue du Messie, qui est la venue de l'autre radical, et qui, l'attente du Messie, elle est profondément liée à l'attente du prochain. Quand il est dit que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont intimement liés, il faut l'entendre dans cette dimension messianique, c'est-à-dire l'autre, celui qui est toujours chargé d'avenir, que je ne peux pas ramener à mon présent, à mon passé, à ce que je connais déjà. Et donc, il y a cette dimension messianique du rapport à l'altérité, quelle qu'elle soit. Et justement, tout ça est médiatisé par l'arc-en-ciel. Mais alors, c'est quoi l'arc-en-ciel? C'est ça qui est intéressant. D'abord, il y a deux choses. Ce signe, c'est la première fois que le mot « alliance » apparaît. Enfin, d'abord, il y a cette alliance avec Noé au chapitre 6. Puis après, là, chapitre 9, l'alliance avec toutes les créatures. Et c'est le signe de l'arc-en-ciel. Mais il n'est pas dit « quand tu verras ce signe dans la nue, l'arc dans la nue, tu te souviendras de l'alliance ». C'est Dieu lui-même qui dit « quand... je verrai, voilà, je me souviendrai ». C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'on va oublier. Il sait très bien que nous sommes rechutes, récidives, obstinés, nucrèdes, voilà. Et lui se souvient, c'est lui qui se souvient. Et alors il nous donne ce signe parce que ce signe, c'est l'eau et le feu. Il y a un psaume qui dit « Nous sommes entrés dans l'eau et le feu, tu nous as fait sortir dans l'abondance ». L'eau et le feu. Et c'est quoi? C'est justement le fait que le feu, passant à travers l'eau, tout d'un coup, diffracte la lumière blanche en une multitude de lumières. C'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est celle de l'épreuve. Donc c'est pas simplement un irénisme, on va aller vers l'autre, on va s'ouvrir à l'autre. Non, s'ouvrir à l'autre, c'est une blessure. Il faut l'admettre. Et c'est un combat même pour que l'autre accepte d'être un autre qui se tourne vers l'autre et qui reconnaisse lui-même son propre mystère, qu'il reconnaisse qu'il est un altéritaire et pas un identitaire, voilà, justement. Que ça lui vient de quelque chose, d'une source mystérieuse, même sa propre identité, comme il dit. Donc c'est là où il faut se souvenir de ce signe de l'arc-en-ciel qui a été peut-être un peu trop récupéré par certains drapeaux, voilà, de manière facile, idéologique, militante, mais qui est un signe incontournable.
Il y a autre chose qui est incontournable dans ce conte, et donc dans votre pensée, c'est la place de la femme et du féminin. C'est la conclusion du conte. Rien ne peut se faire sans la femme, sans les femmes, dans une égalité ontologique parfaite avec les hommes, Fabrice Hadjadj, puisque la fin de votre conte, c'est l'apparition de la femme de Noé, Naama.
Oui, elle est toujours là, alors une descendante de Cain, disent les pères du Talmud. Bon, ça c'est très étonnant. Il faut garder la lignée caïnite, il ne faut pas la faire disparaître dans le déluge. Ça, c'est une interprétation personnelle, c'est-à-dire ça marchait aussi bien pour le théâtre. Au moment où il va planter la vigne, replanter la vigne dans mon cas, il s'apprête à le faire et il reste en suspens. Parce que c'est ça, commencer à la fin du monde. Parce que ce qu'il a eu à charge de faire, Noé, c'est de relancer le monde, de refonder le monde en sachant que ce serait le monde du drame, du péché. Et c'est comme s'il avait à planter lui-même, donc c'est plus l'Éden qui a été planté par Dieu pour les hommes, c'est pour l'homme et la femme, mais c'est l'homme et la femme qui, à travers cette vigne, qui est aussi le fruit de l'ivresse, de la connaissance du bien et du mal. Donc c'est l'homme et la femme qui, tout d'un coup, se trouvent comme s'ils avaient à planter l'arbre de la connaissance et à consentir au monde du drame, du péché, de la tentation permanente du suicide, qui ne peut être surmontée qu'à travers le sacrifice. Et alors ils disent, en gros, ils lui disent, est-ce que tu acceptes, ma femme, qu'on relance cette histoire de l'homme avec toutes ses horreurs, avec tous ses bonheurs, avec toutes ses joies et ses chagrins, et parfois, dans les moments les plus élevés, la joie et le chagrin sont ensemble et nous bouleversent, et parce qu'ils font signe vers quelque chose qui déchire d'une certaine façon ce monde. Et alors, il ne peut le faire qu'avec sa femme. Et au fond, le consentement au mariage, indissoluble, donc qui n'est pas soluble dans l'eau, qui justement forme quelque chose, c'est aussi le consentement à une vie dramatique. C'est pas du tout toi et moi sur une île déserte, tout va bien, etc. Non, c'est rentrer à fond dans ce drame de la vie. Et voilà, effectivement, c'est ça le point culminant, à mon avis, de cette histoire de Noé.
Et dans cette semaine qui recommence l'année, comment vous l'interprétez ?
On commence une année sous le signe de tous les dangers, de toutes les... Et la question c'est, est-ce que tu es encore prêt à donner la vie, à donner ta vie à l'intérieur de ce monde qui va si mal ? Et on pourrait dire non, non c'est fini. Les enfants sont sans cesse jetés à l'eau, justement, dans le Nil, parce que Pharaon est d'autant plus fort. Oui, mais... L'histoire te raconte que tout d'un coup, un enfant naît et il va être adopté par la fille du directeur du camp de concentration. C'est incroyable. Et c'est lui qui va libérer tout le monde. Voilà, cette ouverture de l'avenir, cette ouverture messianique. Le juif commence toujours à la fin du monde. Le messianique commence toujours à la fin du monde. La fin du monde est en fait le commencement, bien sûr, d'une espérance qui dépasse, mais aussi le fait d'ouvrir un chemin au milieu de la mer.
Merci Fabrice Adjadj pour ces deux semaines de conversation absolument passionnante. Je rappelle le titre des ouvrages dont nous avons parlé la semaine dernière et cette semaine. Le Dieu des Bêtes, c'est chez Desclés de Brouwers, et Noé, commencer à la fin du monde, aux éditions Salvador. Il sort en librairie dans les semaines à venir. Merci encore Fabrice Adjadj.
Merci, Marc-Alain.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Sébastien Royer, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture, à l'onglet Talmudique. Françoise-Anne Ménager, Alexandra Malka, Sébastien Royer et toute l'équipe de Talmudique se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et très bonne nouvelle année 2025. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.